Bonjour frères et sœurs. C'est très bien de vous voir. Vous notez que nous ne sommes pas au même endroit que nous étions où nous étions la semaine dernière. Nous avons déplacé tout ce qu'il faut du studio. Nous sommes dans la salle de classe de l'Institut du Fondement maintenant. Et c'est mieux pour notre effort. Nous avons dû tout préparer à partir de zéro. Et quand je suis arrivé ici, 30 minutes avant le début de l'assemblée, l'équipe technique était en train de tester différents éléments et tester les cantiques. Et il y avait un cantique « Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous voyons de nouveau ». Et presque nous étions 5 ou 6 personnes qui étaient en train de faire différentes choses, mais tout le monde chantait. On chantait le cantique, c'était plus qu'un test, c'était un cantique qui a une signification profonde. On a envie de le chanter, en particulier puisque ces paroles sont très à propos de notre situation. Je pense que nous allons chanter beaucoup de cantiques dans les prochaines semaines. Si vous n'avez pas entendu le terme force majeure déjà, vous allez l'entendre probablement de plus en plus dans les prochains jours. Si je l'avais déjà entendu, je ne m'en souviens pas, mais ça m'avait interpellé cette semaine quand j'ai commencé à voir dans différents articles sur les affaires, le commerce du pays face à ce virus. On en a parlé déjà au bureau hier, on en a parlé à propos de nos obligations, nos contrats, les camps d'été, d'autres réunions. Il y a des milliers de commerces qui se sont empressés pour voir s'il y avait des cas de force majeure dans leurs contrats, si c'était dans leurs contrats et ce qui était dit précisément à propos de cela. Force majeure. C'est la partie d'un contrat, selon une source que j'ai consultée. Cela libère les deux parties d'une obligation potentielle en termes de contrat, puisque c'est en dehors de leur contrôle. Ça pourrait être un cas de guerre, d'émeute, de crime, d'épidémie, qui est un événement de ce genre qui empêcherait l'un ou l'autre de remplir leurs obligations. Si nous avons, par exemple, un contrat avec un camp d'été, nous voulons lire le contrat pour voir quels sont les cas de force majeure qui pourraient annuler un contrat. Force majeure, évidemment, on l'utilise en anglais, mais c'est en français. Monsieur Micker est en train de me traduire en ce moment. Et il doit frissonner quand je prononce ces mots en français. Mais ces deux mots, nous le comprenons en français, force majeure. Une force supérieure. Ça veut dire qu'il y a une force supérieure aux parties impliquées, irrésistible à l'œuvre et appliquée aux événements, des effets qui ne peuvent être raisonnablement anticipés ou contrôlés. Mais j'étais heureux d'en savoir plus à ce sujet. Car cela me donne une meilleure expression à utiliser qu'une autre phrase apparentée qui lui est étroitement liée en anglais. Nous n'entendons pas souvent parler force majeure, mais nous entendons cette autre phrase en anglais. Et je n'aime pas du tout cette phrase. Je n'aime pas dire ceci. Ça me met mal à l'aise de le dire parce que ça manque de respect envers Dieu et c'est faux, en fait. Et pourtant, nous l'entendons souvent. Quelle est cette phrase qui est similaire à force majeure? Je vous ai donné la définition juridique. J'ai laissé de côté une partie de cette définition. La définition complète décrit des choses comme une guerre, une grève, une émeute, un crime, un fléau, ou un événement décrit par le terme juridique comme un acte de Dieu, un acte divin. Acte de Dieu. C'est un terme juridique en anglais. Nous allons entendre et voir assez souvent après ce virus COVID-19 dans les cours de justice, dans les arguments juridiques. Question de savoir si quelqu'un doit remplir un contrat. On va entendre ces mots, acte de Dieu. On va cela va s'ajouter à d'autres cas qui ont été utilisés depuis les années 1600. Par exemple, l'ouragan de la fête du travail de 1935 a tué des centaines de personnes, dont plus de 200 anciens combattants de la guerre de 14-18 qui travaillaient sur une autoroute qui reliait les îles en Floride, les Keys. Les enquêtes ont clairement montré qu'ils auraient pu être sauvés avant la tempête. C'était une erreur humaine, la bureaucratie gouvernementale, une manque de précaution, manque de soucis, et ça coûtait la vie aux gens. Mais le titre de New York Times, le titre de cet article dans le New York Times a dit, le titre en était « Décès causés par les ouragans sont conséquences d'un acte de Dieu ». Il y a quelques années, un article de journal sur une explosion en Colombie-Britannique, explosion de tuyaux de gaz, a déclaré, BC Gaz a déclaré qu'une explosion qui avait tué deux personnes à Summerland en juin dernier était un acte de Dieu et ne se reproduirait probablement pas. J'ai lu ça et je me suis dit, ben ça c'est vraiment bizarre de mettre ces deux choses en parallèle. C'était un acte de Dieu, mais ça ne va plus se reproduire. C'est présomptueux de parler de Dieu ainsi. Nous ne pouvons pas trouver de cause, donc on va le blâmer sur Dieu, mais nous ne croyons pas qu'il va le faire de nouveau. On va juste dire que Dieu a fait sauter ces gens, ou au moins il n'a pas empêché, mais Dieu ne va probablement pas refaire ça. C'est incroyable. Hein? C'est pour ça que je déteste ce terme « acte de Dieu » lorsqu'il est appliqué à des catastrophes comme ceci. C'est une démonstration de l'arrogance humaine et l'ignorance de blâmer Dieu pour des choses. Et nous allons l'entendre de nouveau à propos de ce virus. Pourquoi est-ce que nous l'appelons un acte de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on utilise cette phrase-là, surtout quand rien n'indique que Dieu est impliqué du tout? Pourquoi est-ce que seules les mauvaises choses sont assignées, désignées? Pourquoi? Parce que nous autres, êtres humains, nous aimons autant fixer le blâme autant que de résoudre le problème. Et devinez qui est généralement blâmé pour les pires choses qui arrivent à l'humanité. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça se produit comme ça? En même temps, quand il y a quelque chose de vraiment bien, formidable qui arrive, est-ce qu'on appelle ça un acte de Dieu? Si l'OMS dit, nous avons trouvé demain nous avons trouvé le remède pour ce virus, combien de membres d'un gouvernement ou de médecins ou autres diraient que c'est un acte de Dieu nous a amené cet remède? Peu de personnes, ou personne ne dirait ça. Non, on dirait que ce sont des êtres humains qui l'ont fait, c'est un coup de chance. Mais quand c'est une tragédie, acte de Dieu. Eh bien, nous ne devons pas nous tromper. Il y a des actes de Dieu, Dieu agit, mais il y a aussi des actes des hommes. Et il y a aussi des actes de Satan, du diable. Dieu agit dans la vie. Mais les êtres humains agissent également, et Satan agit dans les affaires de cette terre. Nous entrons dans une saison de l'année quand nous pensons à certains événements remplis de signification et qui montrent ce qui se passe réellement dans le monde, dans l'histoire, et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Malgré les bouleversements, l'agitation, les incertitudes de cette épidémie de coronavirus qui absorbe nos pensées si facilement, nous devons nous assurer qu'elle ne consume pas nos pensées. Nous devons passer du temps profondément à réfléchir à ce que nous allons faire d'ici 17 jours, le mardi soir 7 avril, au moment de la Pâque, quand nous recommencerons un cycle annuel d'observance très spécial qui nous aide à nous concentrer sur les actes de Dieu les plus importants, les vrais actes de Dieu que l'humanité puisse imaginer. Le lendemain soir, nous entrerons dans le premier jour saint de la fête annuelle, les pains sans levain, le premier de 7 jours saints, des fêtes qui nous donnent seulement des informations critiques, non seulement des informations critiques sur les vrais actes de Dieu, mais tout aussi important, la compréhension des actes des hommes et des actes de Satan. À travers la signification des fêtes divines, Dieu nous fait comprendre comment les actes de Dieu, de Satan et de l'homme fonctionnent et s'entrelacent. D'où ça vient et où ça va finir. Et de manière ultime, nous allons comprendre, chacun de nous, nous devons prendre cette information et le ramener à un aspect personnel. Les actes de moi et de vous, nos actions. Ces fêtes nous aident à déterminer comment nous allons agir, comment moi, comment est-ce que je vais agir moi. Alors, je voudrais prendre un peu de temps aujourd'hui de réfléchir à notre préparation à ce moment de l'année, de mettre nos esprits là-dessus. Premièrement, première chose à considérer à ce moment de l'année, quand nous commençons à réfléchir au sujet de la Pâque, cela nous aide à nous rappeler que le plus grand fléau qui frappe l'humanité actuellement n'est pas le COVID-19. Le plus grand fléau qui frappe l'humanité actuellement a quelques parallèles avec ce virus. Par exemple, beaucoup de gens veulent identifier le point d'origine de ce virus. Et beaucoup pensent que ça a commencé en Chine avec des gens qui mangeaient des animaux. Et ils pensent que c'est ainsi que le virus s'est propagé. La peste dont je parle a un point d'origine très clairement identifiable. Dans Genèse chapitre 3, deux personnes, ont mangé quelque chose qu'ils n'auraient pas fallu manger. Et ils l'ont fait avec des résultats désastreux. Vous connaissez l'histoire. Comment ces deux personnes, Adam et Ève, ont contracté ce fléau. Il est venu d'où? Eh bien, il est venu directement de Satan, qui a délibérément agi pour les infecter. Et, soit dit en passant, quand on veut blâmer quelqu'un, qui est-ce que Adam et Ève ont blâmé? C'est le premier acte de Dieu, c'est la première accusation d'un acte de Dieu. La première chose que Adam a dit, la femme que tu m'as donnée, m'a fait pécher. On le met sur Dieu. C'était un acte de Dieu. Plus tard, l'apôtre Paul a écrit sur l'ampleur de cette catastrophe. Notons ce que Paul a écrit dans Romains chapitre 5. Romains 5. Ceci ressemble beaucoup à ce que nous entendons dans les nouvelles aujourd'hui. Seulement, ce n'est pas un fléau physique ici, mais spirituel. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà, c'est là. Le péché, c'est le fléau de l'humanité. C'est le fléau, la peste qui est sur l'humanité. Et nous poursuivons notre vie de tous les jours. Nous ne faisons aucun cas de ce qui se passe dans le monde entier. On devrait s'en soucier autant que nous nous soucions du coronavirus. Moi, je l'ai attrapé, moi, le péché. Nous avons tous été infectés, nous allions tous en mourir. Nous allions tous en mourir, sauf que par un acte de Dieu. Dieu a agi pour nous sauver. Mais avant de parler de ça davantage, allons à Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, il y a un long discours de Jésus. Et ce que nous voyons ici peut illuminer une bonne compréhension de ce qui se passe dans ce mélange des actes des hommes, les actes de Satan et les actes de Dieu. Verset 1 de Jean 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Ce qui allait se passer ici, le reste de cette journée-là, il y allait avoir beaucoup d'émotions et beaucoup d'actions. Ce qui suit est très intéressant. Mais allons vers la fin du chapitre pour voir une chose que Jésus a dit ici. Et ensuite, nous allons chercher le contexte. Au verset 44, il y a une déclaration très, très forte. Il dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car les menteurs est le père du mensonge. S'il ne décrivait que Satan, tout le monde aurait pu applaudir. Mais il a dit, vous avez pour père le diable, vous avez le même état d'esprit que lui. Et là, il y a eu une réaction très forte. Mais il a dit quelque chose qui était très important. C'est un point que l'humanité doit comprendre. Il y a un diable, il agit, il pense de certaines façons. Et les êtres humains veulent faire la même chose que lui. Ce diable est le père spirituel du monde. Ça, c'est fort. Comment cela se fait-il que Jésus est venu à discuter de ça ce jour-là? Ce qui est intéressant, c'est le contexte qui a mené Jésus à cet énoncé. Revenons au début du chapitre. Il y avait un événement qui a eu lieu au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je pense que vous le connaissez. Ils voulaient piéger Jésus. Et il le testait au verset 6. Mais Jésus écrivait avec le doigt sur la terre. Il a dit, celui qui est sans péché, jette le premier pierre. Et nous arrivons au verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Un acte formidable de miséricorde. Ça, c'était un acte de Dieu. Et dans cet acte, il lui a donné une autre chance, mais il a rendu très clair également. Les êtres humains voulaient qu'elle meure, qu'elle soit lapidée. Jésus exerçait sa prérogative d'agir par miséricorde. Mais il a rendu très clair également, maintenant, à toi d'agir. Tu dois agir, tu dois te comporter comme il faut, d'une certaine manière maintenant. Souvent, nous lisons cette histoire, nous arrivons au verset 11 et nous nous arrêtons là. Mais si nous continuons de lire, nous voyons que cet incident a ouvert une longue conversation entre plusieurs personnes. Il y avait beaucoup de réactions. Cet acte de miséricorde envers cette femme et envers ses accusateurs a commencé un débat avec les pharisiens au verset 13, et puis d'autres qui ont observé étaient attirés dans la conversation également. Je ne vais pas tout lire, mais au verset 30, nous lisons quelque chose d'intéressant. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs, en anglais c'est beaucoup, beaucoup crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, gardez à l'esprit, il parle à un auditoire qui croyait en lui. Mais ça, c'est merveilleux. C'est formidable de pouvoir parler à un auditoire comme cela, n'est-ce pas? Mais on va voir que cet échange agréable allait rapidement changer. Parce que tout à travers la discussion, il allait les confronter avec, ou par des vérités, pour voir si vraiment on croyait en lui. et qu'est-ce qu'il ferait de cette croyance si on croyait en lui. Mais à la fin du chapitre, même ce groupe-là s'est retourné contre lui avec amertume. Ils commençaient à prendre des pierres pour lapider et Jésus a dû s'éclipser. Alors, ce qu'on a lu au verset 44, cela faisait partie d'une conversation qui a commencé au verset 13 et qui a été enclenchée par cet incident avec la femme attrapée dans l'adultère. Et beaucoup de gens se sont mêlés à cette conversation, y compris ceux qui au début croyaient en lui. Verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il faut agir comme il faut. Verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas être libres, affranchis, jusqu'à ce que nous sachions, que nous connaissions la vérité. Verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Je pense que ça, c'est probablement la réponse la plus ridicule qu'on peut lire dans la Bible. Plusieurs fois dans leur histoire, les Juifs avaient été esclaves, en esclavage. Et même ici, ils étaient sous la domination des Romains. Ben, on lit ce qu'ils ont dit là. Ben, évidemment, ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient en esclavage au péché s'ils pensaient qu'ils n'avaient jamais été esclaves de personne. Et Jésus explique. Ils étaient esclaves du péché. Verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ensuite est venue la conversation, et cette conversation est devenue de plus en plus intense. Verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Verset 41, « Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » Ça, c'était une insulte à Jésus. « Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Et le verset 44, c'est la suite. « Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas écouter ma parole ? Parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quels étaient ses désirs? Il a été meurtrier, menteur. Il ne se tient pas dans la vérité, il n'y a pas de vérité en lui. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous vous souvenez peut-être d'un film, quelques bons hommes. Il y a Jack Nicholson qui dit, on lui dit de dire la vérité, il dit, vous ne pouvez pas supporter la vérité. Point pivot dans le film. Et c'est un point pivot ici en Christ, quand il explique une vérité fondamentale aux gens. Et c'est difficile pour les êtres humains de supporter la vérité. Winston Churchill a dit, « Les hommes trébuchent parfois sur la vérité, mais la plupart se redressent et se dépêchent comme si de rien n'était. » Frères et sœurs, à l'approche de cette fête à venir, nous devons manger des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Nous ne pouvons pas nous relever et nous dépêcher pour éviter de confronter la vérité. Mais c'est un acte commun pour l'homme. Ici, ils ont trébuché sur la vérité. Je ne pense pas que ce matin-là, les gens se sont levés et ils ont dit, « Moi, je cherche la vérité de la bouche de Jésus. » Non, ils étaient là, ils ont trébuché sur la vérité. Jésus les a confrontés. Et cela exigeait une réponse de leur part. Ils allaient devoir changer leur façon de penser. ils allaient devoir refaire leur façon de penser et ils avaient une possibilité, la possibilité de le faire. C'est pour ça que le verset 44 est si critique pour pouvoir comprendre les actions des êtres humains. Il leur expliquait pourquoi c'est difficile pour les êtres humains d'agir selon la vérité. C'est parce que nous vivons un monde qui est influencé par le père spirituel du monde, qui est le diable. C'était fort. C'était très fort ce qu'il a dit. Il a dit, vous êtes tous influencés par lui. Et c'est difficile de croire et de comprendre la vérité. Ce verset est vraiment charnière pour pouvoir commencer les actes des hommes et les actes de Satan également. C'est également un point charnière pour comprendre pourquoi nous allons voir certains des actes de Dieu qui sont déjà prédits d'avoir lieu dans le futur. Il nous explique comment certains des actes des hommes vont avoir lieu, comment les actes de Satan s'entremêlent avec les actes des êtres humains et comment les pensées, la pensée de Satan dirige le cours des événements humains. Mais nous n'osons pas appeler les mauvaises choses dans le monde les actes de Satan. Nous ne voulons pas accepter la responsabilité non plus pour les appeler les actes des hommes, mais c'était les meurtres de Satan, les mensonges de Satan qui ont commencé cette réaction en chaîne et a poussé les êtres humains à agir de la même manière. Frères et sœurs, voilà pourquoi c'est tellement important de comprendre comment Satan a déclenché cette réaction, comment il a travaillé sur Ève et comment elle a réagi quand elle a écouté Satan. C'est ce dont M. Meeker a parlé. Il y avait des doutes. Il commençait à semer des doutes dans son esprit à propos de Dieu. Celui qui avait agi pour leur donner la vie, de donner un endroit agréable, habité, une bonne voie de vie, Satan a mis des doutes dans son esprit. Et quand elle a commencé à écouter les mensonges de Satan, elle a réagi. Et sa réaction a changé au début de dire, Dieu a dit de ne pas le manger, j'écoute Dieu. Et peu de temps après, eh ben oui, cet arbre est agréable. Je vois qu'il est... Ce fruit est beau, c'est désirable, je pourrais devenir sage, moi j'en veux. Les pensées de Satan ont affecté les pensées d'Ève, et ses pensées l'ont poussé à agir, et ses actions ont déclenché une chaîne de réactions. Ça a mené à une mauvaise réaction vis-à-vis de son mari, entre les deux. Ils ont menti à Dieu par la suite, et finalement... Leurs actes ont finalement fait en sorte que Dieu ait dû agir. Il y avait un acte de Dieu, de les éloigner du jardin. Et le fait d'être coupé de Dieu, ça les a amené toutes sortes de problèmes. Il n'a pas fallu très longtemps pour que l'humanité se dégénère. Une génération après, il y avait un meurtre déjà. Leur fils a assassiné son propre frère. Il ne faisait que refléter l'esprit de leur père spirituel, Satan. Et l'acte de Caïn a été précédé d'actions, d'actes mentaux, jalousie, la colère, les rancunes. Ce sont des pensées du diable également. Et Satan agit pour mettre ses pensées, cette façon de penser dans son esprit. Et c'est devenu une partie de notre façon de réfléchir, de penser. Et cela a amené toutes sortes d'actes humains. La maladie se répandait. La maladie du péché se répandait. Les actions pécheresses conduisent à des conséquences. Et gérer les conséquences nous amène à d'autres actions pécheresses. Comme un coronavirus spirituel, invisible, on ne le détecte pas au début, mais 100% mortel. Les actes de l'humanité se sont aggravés au fil du temps. Ils sont devenus si mauvais que cela a entraîné un autre acte de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, on voit quelque chose qui s'est passé, cause et effet. Parfois, Dieu agit, oui, et il le fait de façon puissante, mais il agit si souvent à cause des actions préalables de la part des hommes. Genèse chapitre 6, verset 17, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. » Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Est-ce que Dieu cause chaque inondation? Non, bien sûr que non. Mais ici, ce n'était pas une inondation locale causée par le temps. Non, il a dit, moi, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour déduire toute chair. Et il y a des gens qui lisent ça pour dire, mais ça, c'est pas gentil de la part de Dieu. Des critiques disent, mais voilà votre Dieu, hein, voilà comment il est. Hein. Il blâme Dieu. Mais si on prend un peu de recul, au verset 5, on voit, c'était les actes des hommes qui ont poussé Dieu à agir. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il était en colère. Les êtres humains avaient pris cette vie que Dieu avait prévue d'être formidable. Et puis, ce qu'on a lu après, la terre était corrompue devant Dieu, verset 11. Dieu regarda la terre, voici, elle était corrompue, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la terre, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est beaucoup comme Apocalypse chapitre 11, quand le moment viendra, quand Dieu dit, je vais détruire ceux qui détruisent la terre, les actes des hommes. Un acte de Dieu qui suit et qui est causé par les actes des hommes. Et cela nous fait penser aussi au dernier jour avant son retour. Ce sera comme dans les jours de Noé. Ainsi sera-t-il quand le Fils de l'homme reviendra. Il y a des conditions qui sont causées par des êtres humains qui vont revenir à cette étape de nouveau. La Bible elle-même est un livre d'histoire et c'est un commentaire sur les actes de Satan, les actes des hommes et les actes de Dieu. Jésus a dit à tout le monde, dans Jean chapitre 8, il leur a dit le point, il leur a expliqué le point d'origine de tout cela. Le point d'origine, c'est la nature de Satan et ses actions. Et comprendre, parce que l'humanité a suivi l'exemple de Satan. Jésus a dit, vous êtes comme votre père, le diable. S'il s'était arrêté pour dire, attendez un instant, moi je dois comprendre ce qu'il dit là. Moi, je dois saisir vraiment ce qu'il veut dire. S'ils avaient eu une autre approche de vouloir recevoir cette vérité, les choses auraient pu changer. Mais au lieu de cela, ils ont réagi typiquement des hommes et ils ont blâmé Dieu. Et ils se sont attaqués à Christ à cause de ses paroles. Et c'est complètement typique. Quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive, et des hommes montrent du doigt à Dieu pour dire « Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu n'as pas arrêté ça ?» Pourquoi est-ce que tu permets ça? Tout est expliqué ici. C'est expliqué là. Cela explique qui est responsable pour ce qui se passe. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette saison des fêtes, nous allons considérer les actes de Dieu. Nous allons considérer les actes du diable, les actes de l'homme. Et finalement, nous devons arriver au point où ça devient très personnel, où nous considérons les actes de moi, de vous et de moi. Nous devons faire cela. Dieu nous somme de faire cela chaque année. Nous devons nous examiner avant de prendre le pain et le vin, comme 1 Corinthiens 11 nous dit, de nous examiner nous-mêmes. Comment est-ce que moi, je me comporte? Quels ont été mes actes? Comment est-ce que je dois agir? Est-ce que les actes de Satan influencent ma vie? Ou est-ce que j'agis comme Dieu? C'est très important. Nous avons besoin de comprendre où sont les actes de Satan, les actes des hommes, les actes de Dieu, et où est-ce que tout cela se termine finalement? Pourquoi c'est si important de vivre nos vies de façon selon la voie de Dieu. Si nous conformons nos actes à la voie de Dieu, même si c'est un chemin resserré, cela va nous amener à une destination particulière. Et si nous prenons un autre chemin, nous finirons ailleurs. Dieu nous rappelle cela chaque année, de la manière la plus puissante, à commencer par la Pâque. Regardons Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tous les hommes ne l'ont pas accepté, n'ont pas compris, mais pour ces raisons à lui, Dieu nous a aidés à comprendre. Dieu s'est révélé à nous, il nous a appelés. Quand est-ce qu'il vous a paru? Par sa grâce. Nos esprits sont ouverts par sa grâce, afin que nous puissions comprendre cet acte de Dieu qui nous a été tendu individuellement. Chaque Pâques, nous considérons la grâce de Dieu avec une gratitude profonde. Hier soir, j'étais assis sur mon canapé et j'ai remémoré des choses, ce qui s'est passé il y a 49 ans, en 1971. J'étais traité pour le fléau à ce moment-là. Je suivis un traitement du fléau, du péché. Et par là, je veux dire que je me préparais au baptême. J'étais arrivé à un point dans ma vie où j'avais vu jusqu'à quel point j'étais malade spirituellement. Je m'étais rendu compte, je vais mourir de ceci. Et je savais, j'en étais venu à comprendre, que seul un acte de Dieu pourrait me sauver. J'étais profondément impressionné dans mon esprit que ma vie dépendait d'un acte de Dieu. Cet acte, quand il a tant aimé le monde, qu'il a été prêt à donner son Fils unique pour que ma vie puisse être sauvée. Il est mort à ma place. La grâce de Dieu qui apporte le salut m'était apparue. Et la question, cette question m'a profondément impressionné. Qu'est-ce que je devais faire comme résultat de cette compréhension? C'est le moment de l'année que nous devons garder à l'esprit, nous devons revoir, remémorer cet acte de Dieu qui nous a sauvé notre vie. Et de poser la question, qu'est-ce que je vais faire en échange de ça? Verset 12. Il nous enseigne à renoncer à l'impiété, à convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Toute iniquité, les actes de Dieu, les actes des hommes plutôt, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Ça, c'est le but de la fête de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Pourquoi est-ce que nous devrions faire cela? Verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. ce n'était pas les actes des hommes qui nous ont sauvés, mais l'acte de Dieu. Il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, un autre acte de Dieu, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ce sont des choses à garder à l'esprit, que ce soit la saison de la Pâque, au milieu de l'été ou au milieu de l'hiver. Ceux qui ont cru en Dieu, non pas comme ceux qui ont cru en Jésus en Jean chapitre 8, mais ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Restez calme et poursuivez votre chemin, comme Dieu le fait. Acte de Dieu, ce n'est pas une mauvaise phrase. En fait, c'est quand on le comprend bien, c'est une bonne chose. La vérité, on le voit clairement dans les fêtes de l'Éternel. Un acte de Dieu, un jour, cette expression sera quelque chose que tout le monde considérera comme positif plutôt que négatif. On verra la force majeure de Dieu, sa supériorité, sa force supérieure et irrésistible. Il y aura un jour dans l'avenir quand les gens vont réfléchir aux actes de Dieu. Ils vont penser à comment Dieu a agi pour donner son propre Fils. Ils vont penser à l'appel de Dieu, comment Dieu nous a dirigés à travers la bonté de Dieu. Il nous a amenés au point où nous pouvons nous repentir, où Dieu est intervenu pour arrêter le suicide de l'humanité, l'acte de Dieu qui a ressuscité l'humanité. Les actes de Dieu dont nous entendons parler aujourd'hui ne seront pas dans les contrats ou dans les cours de justice ou sur les lèvres des hommes cyniques. Nous appellerons les bénédictions, les actes de Dieu. Et c'est là où nous devrions être maintenant. Comme j'ai dit plus haut, malgré le bouleversement, l'agitation, l'incertitude de cette épidémie de coronavirus, assurons-nous qu'elle ne consume pas nos pensées. Tournons nos yeux vers une préparation sérieuse pour la Pâque et les pains sans levain. Tournons nos yeux vers les incroyables actes de Dieu qui nous ont amenés ici et nous ont donné la vie. Et considérons comment nous agirons en retour.